Et maintenant, place au théâtre.
Au XVIIe siècle, sur le pont tout neuf de Paris, les bonimenteurs attiraient le chaland par des apostrophes ou des petites farces.
Accourez, messieurs, dames, accourez! Écoute gratuite, spectacle unique et qui ne sera pas répété!
L'orateur, perché sur des tréteaux, improvisait un prologue. Eh bien, ce quatrième épisode honore cette tradition.
Mon premier est un O, mon deuxième est un R, mon troisième est un T, mon quatrième est un F, et mon tout est le nom du mécène qui tient à rester inconnu et qui vous offre, sans supplément de prix, vie, mort et miracle de la Commedia dell'arte.
Au XVIe siècle, les troupes italiennes ont essaimé leur talent dans toute l'Europe, et plus particulièrement à Paris. La Commedia dell'arte est à l'origine de l'époque dorée qu'a connue la vie théâtrale en France sous l'égide du roi Louis.
Puissance.
Le XIVe.
Plaisir. Lumière.
Il faut bien avoir en tête qu'avant le grand siècle, le théâtre en France se résumait à des représentations mystiques.
Je mourrai entre deux larrons.
Que ce soit sous terre et sans voix.
Ce sera haut pendu en croix.
Ou à des farces stéréotypées. Autrement dit, on avait d'un côté des pièces de catéchisme, sous le regard de Dieu, et de l'autre, des bouffonneries. Et puis, sous l'impulsion des comédiens transalpins, le théâtre a soudain connu un essor inouï, au point qu'à partir des années 1650, la rivalité entre les troupes parisiennes s'est révélée féroce. Et plus encore, lorsqu'est arrivé Molière sur le champ de bataille. Sur scène, Molière a su projeter le ridicule de la condition humaine. Succès fou et 15 ans de combat pour révolutionner l'art du théâtre.
Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Nous allons parler du théâtre.
Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit.
Que l'on commence !
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Molière, le chien et le loup.
Molière, vous avez su infiniment nous plaire.
Quatrième épisode, la guerre des théâtres.
Commençons par le commencement.
Alors, s'il faut commencer par là, il faut d'abord reparler des Italiens. Dès le règne de François Ier, au XVIe siècle, on croise des comédiens transalpins à la cour de France. La suite vous est racontée par l'acteur Léon Chancerel en 1954 sur les ondes de l'ORTF.
Ce sont les Italiens qui ont d'abord apporté leur comédie au XVIe siècle. Les personnages étaient toujours les mêmes. Arlequin, Scaramouche, Pantalon, Polichinelle, le docteur, Isabelle. Cependant, chacun parlait dans son dialecte d'origine. Imagine quatre comédiens français de régions très différentes parlant sur la même scène, dans la même pièce, l'un en breton, l'autre en basque, l'autre en ch'timi, l'autre en alsacien. Eh bien, lorsque les Italiens sont arrivés à la cour d'Henri III, c'était ça.
On succédait à Henri III, Henri IV, puis Louis XIII. 50 ans de règne à eux deux, qui nous conduisent au mi-temps du XVIIe siècle, avec un premier coup de tonnerre dans l'histoire moderne du théâtre.
Quel jour sommes-nous ?
Le 2 janvier 1637.
En êtes-vous sûr ?
Non, n'en suis pas sûr. Nous sommes peut-être le 31 décembre 1636. Qu'est-ce que cela fait ? Ce dont je suis sûr, c'est que nous sommes au Théâtre du Marais et que nous venons d'assister à la représentation d'un chef-d'œuvre. Car le Cid est un chef-d'œuvre. Monsieur Pierre Corneille est un génie.
Le Cid, sa querelle et son immense succès annoncent une ère nouvelle. Le Cid a déclenché de vives polémiques. D'abord politiques, car voilà une pièce qui traite de l'Espagne alors qu'on mène contre elle une guerre. Et puis polémiques culturelles, puisqu'on reproche à Corneille de ne pas avoir respecté les règles académiques de la mise en scène. Et enfin, querelle morale. Dans cette tragédie entre deux générations, on y voit la remise en question du modèle paternel.
L'amour n'est qu'un plaisir, l'honneur est un devoir.
Ah, que me dites-vous ?
Ce que tu dois savoir.
Soudain, donc, le théâtre porte en lui le parfum du scandale. Venons-en à la fin des années 1650.
Oula, 1500,
j'entre Matisse.
Pourquoi ?
Je suis chevalier de la maison du roi.
Vous ?
Je ne fais pas.
Si !
Je suis mousquetaire.
La dernière fois. Et restez au parterre.
À quoi ressemble la vie des théâtres lorsque Molière s'apprête à défier Paris ?
On peut considérer que la vie théâtrale à ce moment-là est tout d'abord marquée par un effet de monopole.
L'historien Claude Bourqui.
Il y a une troupe qui domine la situation, c'est la troupe royale, la troupe de l'hôtel de Bourgogne, qui elle-même est protégée par le roi. Elle entre en concurrence avec une seconde troupe qui est la troupe du Marais. Il y a aussi les Italiens de la Commedia dell'Arte qui sont sur place. Mais dans l'ensemble, ce marché est extrêmement fermé. Hein, non seulement par le fait que certaines troupes sont protégées, mais aussi par le fait que le public potentiel à Paris est extrêmement limité en nombre. Hein, on peut compter tout au plus quelques milliers de personnes. Donc pour Molière, c'est un véritable défi que de parvenir à s'implanter à Paris à ce moment-là.
Et quoi, nous arrivons ainsi que les drapiers sans déranger les gens, sans marcher sur les pieds. Ah, oh, fi, fi, fi. Cuisy, Brissaille.
Les fidèles. Mais oui, nous arrivons devant que les chandelles.
Non, ne m'en parlez pas, je suis dans une humeur.
Console-toi, Marquis, car voici l'allumeur. Ah.
Vous l'avez évoqué, Claude Bourqui, à quoi ressemble le public parisien qui vient au théâtre au milieu du XVIIe siècle ?
Alors, dans l'ensemble, il s'agit des gens issus des milieux proches de la cour, c'est-à-dire des gens de la noblesse qui vont assister à des spectacles, mais également des gens qui font partie de ces milieux de service autour de la cour, comme l'était le père de Molière lui-même, hein, marchand tapissier, c'est-à-dire qui produisait des fournitures pour la cour. À ce public-là, à ce public noyau en quelque sorte, s'ajoute le public, disons, d'une certaine bourgeoisie marchande de niveau assez élevé, tous ces gens-là ayant un peu à l'horizon une certaine manière de voir le monde qu'on peut qualifier d'univers mondain ou galant. Hein. Quand on dit ces termes-là, il ne faut pas s'imaginer ce qu'on y associe volontiers de nouveau, c'est-à-dire une forme de snobisme. Ce sont des milieux simplement qui sont très attentifs à la condition féminine, qui sont très adeptes du second degré, une espèce de milieu culturel très substantiel qui constitue le gros du public à ce moment-là. À cela s'ajoutent bien évidemment quelques laquais qui sont introduits avec leur maître, mais il faut se sortir de la tête l'idée que le théâtre de cette époque-là serait accessible au peuple, sachant que le prix d'une pièce de théâtre se monte dans la plupart des cas à 2 ou 3 journées d'un ouvrier.
À cette époque, un charpentier, nous dit Lagrange, donc un ouvrier spécialisé, recevait 2 livres par journée de travail.
Soit environ 24 000 francs par mois.
C'est cela.
Et quel était le prix des places ?
Bien, dans un théâtre normal à Paris, les places les meilleurs marchés vont de 50 à 150 francs.
Et les places d'amphithéâtre ou les places de première loge valaient 3 livres, 1340 francs. Et quant aux places sur le théâtre, vous savez, les banquettes placées sur la scène de plein pied avec les acteurs.
Les places les plus recherchées, celles des marquis dont se moque Molière. Voyez les faces, j'étais sur le théâtre.
Une place sur le théâtre valait 6 livres ou un demi-louis d'or, c'est-à-dire, tenez-vous bien, près de 3000 francs.
5 aux ombres, laisse un peu sortir cette cohue.
Combien de personnes dans la salle, Claude Bourqui, et comment sont-ils disposés dans ce théâtre du XVIIe siècle ?
Alors, on considère, d'après les estimations, qu'une salle comme celle dont disposait Molière contient à peu près 1 millier de personnes. Et ce public est réparti dans une certaine hiérarchie. Il y a tout d'abord le public le moins prestigieux, le moins qualifié. Ces gens-là, la plupart issus de la bourgeoisie marchande, vont se tenir debout dans la salle, en bas, ce qu'on appelle le parterre. Il n'y a pas de siège à ce moment-là dans une salle de théâtre. À mesure qu'on monte dans l'échelle sociale, on peut se tenir éventuellement dans les loges qui font le tour de la salle, ou sur l'arrière de la salle éventuellement, où il y a des gradins surélevés. Ça, ce sont donc des privilèges qui sont bien sûr extrêmement coûteux. Et singularité qui appartient au XVIIe siècle, on admet aussi des membres du public sur la scène. Donc certains sont assis directement sur la scène, à proximité immédiate des comédiens, ce qui non seulement offre un angle de vue idéal sur le spectacle, mais aussi rend extrêmement visible à l'ensemble de la salle la prestance de certains individus. C'est valable pour les loges en général, mais c'est encore plus valable pour ce système des spectateurs présents sur la scène.
J'étais sur le théâtre. En humeur d'écouter la pièce qu'à plusieurs j'avais ouï vanter, les acteurs commençaient, chacun prêtait silence, lorsque d'un air bruyant et plein d'extravagance, un homme à grand canon est entré brusquement en criant « Hola, oh, un siège, promptement !» et de son grand fracas surprenant l'assemblée dans le plus bel endroit à la pièce troublée.
Il faut dire aussi un mot du contexte. Toujours avoir conscience qu'on vient au monde dans une époque bien précise. Autrement dit, ne pas oublier que Paris, au tournant des années 1660, fut une aubaine pour le destin de Molière.
Il a eu de la chance. Il est bien tombé.
Patrick Dandrey est historien.
La France sort d'une guerre civile, la Fronde. Elle sort d'une guerre étrangère, l'Espagne. Elle va connaître un règne nouveau, avec un roi jeune, sémillant, charmant, traînant tous les cœurs après soi. On croit qu'il ne s'intéresse qu'aux femmes, mais quand Mazarin meurt et qu'il prend le pouvoir, on voit qu'il s'intéresse au pouvoir. Et il s'intéresse non seulement au pouvoir, mais il s'intéresse à ce qu'on appelle, je crois, de nos jours, le soft power, c'est-à-dire le pouvoir culturel. Il donne de l'argent aux écrivains, il crée des académies, il fait construire des jardins et des monuments, il fait des fêtes. Bref, ce roi est un roi qui aime, je dirais, la culture. Et le public parisien a soif de culture. C'est l'après-guerre, quoi. Et donc, Molière va être l'homme qui correspond. Et une phrase que j'aime bien, elle est de La Fontaine, vous me permettez cette entorse. La Fontaine dit « Voilà ce qu'on demande aujourd'hui, on veut de la nouveauté et de la gaieté ». Et vous voyez, c'est une France qui se découvre devenir le premier pays d'Europe, c'est-à-dire le premier pays du monde. Parce que l'Espagne est en train de s'enfoncer, que la galanterie à la française, que l'élégance à la française, que l'intelligence à la française prennent le dessus, et on va trouver une myriade de créateurs qui correspondent à ce moment. La Fontaine, avec l'enjouement des fables, mais aussi la sagesse de la moralité, Racine, avec une conception de la tragédie qui passe du secteur du monde entier jusqu'au cœur humain, qui s'intériorise, la Rochefoucauld, un mondain qui a beau nous dire que l'amour-propre est au centre de tout et que nous sommes dignes d'une vallée de larmes, le dit avec tellement d'élégance qu'il est l'homme du moment. Et là-dessus, je crois que Molière est arrivé comme la synthèse de tout ça. Il est celui qui va apporter une dramaturgie souriante, pleine de gaieté, conforme à son époque, reflétant son époque, et qui en même temps approfondit ce rire et en fait un instrument d'analyse morale. Que rêver de mieux dans une France qui se découvre à la fois profonde et superficielle? Molière, c'est les deux.
Bon, je m'assieds, puisque nous voilà au cours d'histoire.
Du point de vue social, le grand événement du règne de Louis XIV, c'est l'accession de la bourgeoisie, autrefois méprisée pour sa roture, au rang de grande classe sociale, enrichie, honorée et souvent enviée de la noblesse. À cette transformation importante, il y a plusieurs causes profondes. Tout d'abord, dès sa prise de pouvoir personnel, le roi a appelé des bourgeois aux plus hautes charges de l'État. La conjoncture économique explique ainsi en partie ce progrès de la bourgeoisie. L'afflux d'or qui a déterminé et permis l'essor de la Renaissance a été une occasion d'enrichissement pour les marchands et les bourgeois. Au prix d'un labeur acharné, ils ont accumulé des fortunes considérables, placés en bonne terre et en rente sur l'hôtel de ville. Ainsi, l'argent en arrive-t-il à remplacer la naissance.
Ces années 1660 constituent une espèce de véritable démarrage d'une mentalité qu'on pourrait qualifier avec des pincettes de capitaliste, qui est en train de s'insérer progressivement dans la culture des gens de l'ancien régime. Les idées de marché, les idées d'exploitation de son propre potentiel, la réflexion sur l'argent. Je vous rappelle que Molière est l'auteur d'une pièce qui s'appelle « L'avare », qui en fait est une pièce avant tout consacrée à faire de l'humour autour de l'argent, cette nouvelle réalité qui fait irruption dans la vie des gens de cette époque-là. Hein. Tout ceci fait qu'on entre dans une nouvelle ère, et le théâtre est le produit culturel, voilà, hein, pour utiliser une expression actuelle, qui se prête le mieux à ce type de vente. Et il faut aussi sortir de l'idée du théâtre, en quelque sorte, comme un produit parmi d'autres dans une offre culturelle. À cette époque-là, le théâtre, c'est l'essentiel. Seul lui fait concurrence, plus ou moins, la production imprimée, mais elle est loin de susciter l'attrait que pour présenter le théâtre, ne serait-ce que parce qu'il est capable de rassembler des gens, et donc de les faire se regarder les uns les autres. Donc c'est la principale distraction. Il a un impact qu'on pourrait comparer à celui qu'avait le cinéma dans les années 1950. Donc le théâtre profite de cette espèce de nouvel essor de la civilisation occidentale.
Une farce du sieur Molière.
Cédons un instant la parole à Lagrange, l'ami fidèle de Molière.
C'est ici qu'interviennent les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne, ceux qu'on appelle les grands comédiens, nos concurrents les plus directs. Plusieurs fois déjà, je vous ai laissé entendre que le succès de notre troupe ne leur faisait pas tellement plaisir, qu'ils s'inquiétaient de voir que notre salle du Palais Royal ne désemplissait pas. Leur inquiétude prenait parfois des allures de mauvaise humeur, car Molière ne s'était pas privé dans les précieuses ridicules et dans la critique de quelques plaisanteries sur leur compte. Mais rien de tout cela n'était grave, une petite guerre entre confrères comme on en connaît un peu partout, où tous les coups sont permis du moment qu'ils font rire.
Dans ce monde très concurrentiel en réalité, entre ces troupes parisiennes, comment Molière réussit-il à creuser sa place ?
Alors, le procédé qu'il va adopter, il va le découvrir assez rapidement. Donc, Molière arrive à l'automne 1658. Il produit à peu près à cette époque-là une petite pièce dont il a l'idée qui s'appelle, enfin, tout le monde connaît le titre, hein, Les Précieuses Ridicules. C'est une petite pièce qui fonctionne comme complément de spectacle, mais qui présente certaines caractéristiques. D'abord, c'est une pièce destinée à provoquer le rire. Or, à ce moment-là, la comédie est un genre de théâtre qui offre des situations amoureuses assez rocambolesques, agrémentées de temps en temps de propos d'un personnage bouffon, mais ça n'est pas fondamentalement destiné au rire. Et à cela, il ajoute encore le fait que ces plaisanteries sont en grande partie orientées vers une parodie des usages familiers du public. C'est un salon, tel qu'il en existe beaucoup à Paris à ce moment-là, qui est traité sous le mode parodique. Non pas pour le rendre ridicule, mais bien pour partager avec un public qui connaît bien ce milieu-là, des effets comiques sur cette déformation. Et donc ce petit ballon d'essai qu'il lance à la fin de 1658 va connaître un succès tel que Molière rapidement va comprendre que son salut va passer non pas par une présentation d'un programme conventionnel, comme il avait commencé à le faire, c'est-à-dire un programme qui mélange de la tragédie et de la comédie à l'ancienne, mais passer par un type de comédie nouveau qui va s'orienter vers le rire. Hein. On va aller dans son théâtre au Petit Bourbon, puis au Palais Royal, pour rire, pour rigoler, et avec un type d'humour qui est très orienté vers les pratiques sociales, l'univers familier de son public.
Résumons. Au début des années 1660, trois théâtres donc rivalisent sur la scène de Paris. Le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, les comédiens du roi.
Heureux qu'ils ont un écout.
Le théâtre du Marais, celui où Corneille voit ses pièces jouées.
Un véritable roi n'est ni mari ni père.
Et puis le théâtre du Petit Bourbon, où Molière partage l'affiche avec les comédiens italiens. Mais ce ne sont pas simplement que trois lieux. Ces trois théâtres s'affrontent sur le genre à défendre. Prenons pour commencer Pierre Corneille. Quel théâtre l'auteur du Cid défendait-il ?
Alors, Corneille avait deux genres dans lesquels il s'exerçait. Il y avait la tragédie qui est devenue son domaine. Tragédie d'abord héroïque, puis tragédie plus complexe, plus compliqué dans son intrigue, Corneille avait le goût des complications. Et puis avec des personnages qui deviennent de plus en plus étranges, presque monstrueux, des Attila, une Cléopâtre sanguinaire. Et puis en comédie, il a abandonné la comédie assez vite, mais il a quand même laissé des traces. Une comédie imitée des Espagnols, qui est une sorte de comédie souriante entre gens élégants, qui parle essentiellement d'amour, avec des jaloux, des soupirants aimés, puis d'autres pas aimés, avec des quiproquos, avec tous les charmes de ce qui sera un peu plus tard le théâtre de Marivaux, qui saute de Corneille au XVIIIe siècle. Molière, dans l'intermédiaire, ça n'a pas du tout être ce genre-là. Molière revient avec une forte teinture italienne, un italianisme qu'il a appris dans les provinces et puis qu'il va renforcer, puisqu'il jouera en alternance sur la scène du Petit Bourbon, puis du Palais Royal, avec l'arlequin Biancolelli. Biancolelli qui est revenu d'Italie, les Italiens faisaient des séjours en scansion entre la France et l'Italie. Il a appris donc l'italien, il a même créé deux masques de personnages, de comédiens à l'italienne, un Sganarelle et un Mascarille. Et Mascarille, c'est le petit masque, Sganarello, c'est celui qui vous trompe, qui fait de l'embrouille. Et cette influence italienne, il va la matiner avec la farce à la française, alors qu'il est tout le contraire de ce que peut aimer Corneille. Vous savez que Corneille disait que dans une comédie, moins on rit, meilleure elle est. Alors, c'est pas vraiment l'esprit de Molière qui dit que quand le rire nous prend aux tripes, c'est que nous avons touché le but. Cela dit, son rire à lui n'est pas un rire gratuit. Et c'est la différence avec la farce. Il fait une synthèse entre ce rire de la farce et le rire plus léger, le sourire, disons, de la comédie à l'espagnol. Et il s'arrange pour rendre le spectacle du monde drôle. Si je prenais un exemple très anachronique, je dirais qu'il se rapproche le plus du jeu de Molière, c'est un acteur, ne l'oublions pas, ce que Corneille n'était pas, c'est peut-être le monde des imitateurs. Quand Gérard imite Sarkozy ou Hollande, vous connaissez ce spectacle où Laurent Gérard imite pendant 5 minutes la marche de Hollande sans texte, où c'est à la fois totalement vrai et totalement ridicule. Or, ces deux grands hommes d'État n'étaient pas ridicules. Quand ils nous tiennent des discours, nous ne rions pas. Quand Laurent Gérard les imite, nous rions. Pourquoi ? Eh bien, ça, c'est le mystère de Molière. C'est qu'il est allé prendre, dans la réalité, des éléments qu'il imite, mais tout à fait réellement, et il fait ressortir ce qu'il y a de tic, ce qu'il y a d'inertie, ce qu'il y a de cristallisé dans les conduites des gens, et ça produit le rire. Et ben ça, c'est le miracle. Le rire bouffon n'avait aucun rapport avec le réel. Le rire élégant, le sourire de la comédie à la Corneille prétendait imiter la réalité, mais en prélevant ce qu'il y avait de plus charmant dans la réalité. Molière, lui, il va au centre des choses, dans vraiment la chair humaine, et il en tire des choses qui sont à la fois vraies et drôles. Et ce qu'a inventé Molière, que ne connaissaient pas les gens autour de lui, c'est l'art de nous faire voir le monde sous l'angle du comique. C'est prodigieux. C'est-à-dire que le rire devient l'axe par lequel vous pouvez voir la réalité. C'est plaisant. Depuis Rabelais, on n'avait pas vu ça. Vous savez. Et c'est la profondeur de déceler en l'homme tout ce qui ne va pas, tout ce qui diffère de la loi de la norme.
Au lecteur, extrait de Gargantua, le deuxième roman de l'auteur, publié en 1534, François Rabelais. Amis lecteurs qui lisez ce livre, défaites-vous de toute passion et en lisant, ne vous scandalisez pas. Il ne contient ni mal ni infection. Il est vrai qu'ici, vous n'apprendrez que peu de perfection sinon sur le rire. Mon cœur ne peut choisir aucun autre sujet. Quand je vois le deuil qui vous mine et consume, il vaut mieux écrire du rire que des larmes, parce que le rire est le propre de l'homme. Vivez. Joyeux.
Vous dites, Patrick Dandré, que justement, Molière est un peintre des mœurs qui découvre la perspective. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'il est un peintre des mœurs et des cœurs d'ailleurs, et jusqu'alors ça se peignait en aplat. Vous avez un ridicule que vous voyez, mettons un marquis qui en fait des tonnes, et ces petits marquis-là, on peut les peindre comme ça. Et vous pouvez aller derrière, aller chercher ce qui fait que ces gens sont abusés par l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes. Une image de qualité qui est en réalité un défaut. Qu'est-ce qui fait que les hommes sont dans cet état de, disons-le, de folie ? Il va au fond des choses. Et qui trouve-t-il? Au départ, il a mis en scène essentiellement des jaloux et des étourdis, c'est-à-dire des évaporés et puis des obsédés. Et peu à peu, on voit apparaître, et c'est dans l'École des femmes en 1662 qu'il nomme cette bipolarité qui va être celle de tout son théâtre, on voit apparaître que l'obsession, la marotte, c'est l'idée fixe. Et qu'il y a des êtres humains qui sont orientés par une idée fixe qui ne leur permet plus de voir le réel dans sa diversité. Ils ne voient plus que ce qui est leur folie. Et puis de l'autre, vous avez les chimériques. Ils parlent de chimère. La chimère, c'est l'évanescence. Vous voyez, c'est Monsieur Jourdain qui croit qu'il devient Mamamouchi et que le Grand Turc va épouser sa fille, ce qui est peu crédible. Mais en même temps, il croit cela parce qu'il a une obsession, une marotte de noblesse qui fait qu'il ne voit dans le monde que la gentilhommerie. Et cette bipolarité, c'est en somme l'erreur des hommes qui se laissent guider par l'image. Regardez une campagne présidentielle, comme ça, je prends l'exemple par hasard. Vous avez des candidats à marotte, c'est ceux qui ont une idée fixe. Dans chaque discours, ils vous répéteront leur truc. Et puis vous avez les candidats à chimère qui vous annoncent que demain, on rase entièrement gratis. La chimère, la marotte, ben ça n'a pas changé. Et Molière est un excellent analyste des campagnes présidentielles.
Ce que vous dites en creux également, c'est que ce que le public parisien découvre dans le théâtre de Molière, dans ses pièces, c'est peut-être une forme de psychologie des personnages qui n'existait pas auparavant.
Exactement. Vous notez que c'est ce que va faire Racine deux ou trois ans plus tard. Racine fait la même chose. Il va au fond du cœur et il en fait l'inventaire. Alors, psychologie est un mot qui est évidemment un peu anachronique. Alors, excusez, c'est l'historien de la littérature qui ici apparaît dans son pédantisme. Mais enfin bon. Alors moi, vous savez ce que je dirais? Je dirais moraliste. Parce que dans la morale, il y a à la fois l'idée des mœurs, et puis il y a aussi, la morale, c'est le cœur, hein, c'est la peinture du cœur. Alors, c'est pas une morale au sens de ce qu'il faut faire et ne pas faire, hein. Non, non, c'est une peinture morale de l'humanité. C'est-à-dire qu'en réalité, il fait un inventaire de l'humanité. Vous savez, ils font tout ça autour de lui. Hein. Quand Pascal, à la même époque, écrit les pensées, après avoir diverti le public par les provinciales, que va-t-il chercher sinon ce qu'il y a au fond de l'homme? Lui, il y trouve le divertissement. La Rochefoucauld fait la même chose. Qu'est-ce qu'il trouve, lui? Il trouve l'amour propre. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons est en réalité issu du grand amour que nous nous portons à nous-mêmes. Et que trouve Molière? Ben, il trouve, lui, la folie. La folie de se prendre pour un autre. Alors, est-ce que c'est un hasard si c'est exactement ce que fait un homme de théâtre, un acteur? Parce que fait un acteur? Il endosse le rôle d'un autre pour nous montrer que nous avons tort de le faire dans la vie. C'est-à-dire que le théâtre nous guérit, en quelque sorte, de l'erreur que nous aurions de nous prendre pour des personnages de théâtre. Je vais même plus loin. Molière a renvoyé sur la réalité la logique du théâtre. C'est-à-dire qu'il nous dit que nous sommes un théâtre.
Musique, maestro ?
Son succès parisien, Molière le doit en partie au théâtre italien. Primo, son érudition était immense. Molière connaissait très bien tous les archétypes de la commedia dell'arte. Il savait, par exemple, où était né Arlequin.
Je suis né à Bergame, tout de blanc vêtu et une toque sur la tête. La veste ouverte par devant et attachée par de mauvais rubans. Un pantalon étroit et collant. Une ceinture pourvue d'une escarcelle et fixée à cette ceinture, un sabre de bois. Ma fameuse batte. Et après, tout le monde ne peut pas naître orphelin ou tout nu.
Pas de losange coloré, donc, sur le premier costume d'Arlequin. Ensuite, Molière connaissait aussi très bien toute une kyrielle de petites pièces italiennes qu'il adorait rafistoler. À la manière d'une couturière, Molière rapièce. Mais qu'a-t-il réellement emprunté à ce théâtre un poil désuet au milieu du grand siècle?
On peut aussi se demander si dans l'univers qui est proposé au sein de cette comédie italienne, avec ses valets fourbes, avec cette adversité qui survient continuellement, cette vision du monde, comment dire, un peu anarchique, où on constate l'absence d'une providence, cette vision du monde entre peut-être aussi en affinité avec sa propre vision du monde personnel, telle qu'on peut peut-être la déceler à l'horizon de ses productions.
Ça veut dire que pour lutter contre les accidents fâcheux de la vie, il faut avoir recours à l'espièglerie, à la fourberie, à la malice.
Mmh, effectivement. Alors c'est le cas dans Les Fourberies de Capin, dans une autre pièce qui s'appelle L'Étourdi, dans plusieurs pièces où intervient le personnage de Sganarelle. C'est une vision du monde qui se développe, où il y a une place en quelque sorte pour les individus rusés, c'est eux qui finalement parviennent à triompher du monde.
Pourquoi trouve-t-on autant de comédiens italiens à Paris à cette époque-là ?
Alors, il faut rappeler tout d'abord que le théâtre italien, de par sa manière de production extrêmement efficace, ce qu'on appelle la commedia dell'arte, est très répandu en Europe. C'est le théâtre qui va le plus essaimer à partir du XVIe siècle et jusqu'au XVIIIe siècle aux quatre coins de l'Europe. Au XVIIIe siècle, ils sont jusqu'à Saint-Pétersbourg. D'autre part, on sait que les Italiens, dans ces siècles-là, ont une tradition d'exportation de leurs musiciens, de leurs peintres et sculpteurs. Donc cette présence des comédiens italiens se repose là-dessus. Et donc, les comédiens de l'art sont arrivés en France, ont commencé à circuler en France et à Paris à partir de la seconde moitié du XVIe siècle. Au cours du XVIIe siècle, ils vont même parvenir à s'établir à Paris de manière totalement fixe. C'est un phénomène tout à fait spectaculaire de l'Ancien Régime, que cette espèce de succursale italienne à Paris, où on joue en italien, du théâtre italien pour un public français qui néanmoins s'en délecte.
La fantaisie des Italiens se mariait à l'art français dans une mixture, d'abord assez grotesque, comme l'étaient les tirades macaroniques que vous aviez commencé par débiter.
Je me suis insomniato ce matin, qu'un faquin d'importanza me tirait par la panza et me disait, monsieur Arlequin, habibis medaliam et colonam, ô sacra majesté, fais-moi donner tout à cette heure pour Strena la médaille attachée à une grosse chaîne. Bravo!
Bien, se posent maintenant deux questions. D'abord, comment jugeait-on un spectacle au XVIIe siècle? Je veux dire, qu'est-ce qui importait aux yeux du public pour affirmer qu'une pièce de théâtre était bonne?
À l'époque de Molière, les critères pour juger de la qualité d'une pièce sont vraiment en train de changer. On assiste vraiment à une révolution sur le plan de la critique théâtrale.
L'historienne Lise Michel.
Avec un passage d'une critique de type poétique qui s'intéressait vraiment à la construction des œuvres elles-mêmes, disons dans le fait qu'elles suivent ou pas un certain nombre de principes de construction. On passe de ce type de critique-là à une critique qui est attentive directement aux effets. Alors ça ne veut pas dire que la critique précédente n'était pas attentive aux effets, mais vraiment, dans ces années-là, on part de l'effet, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'une pièce est réussie si elle a produit dans la salle l'effet qu'elle devait produire, quelle que soit la manière dont elle y arrive. Donc, c'est-à-dire qu'une comédie fasse rire, qu'un spectacle de cours produise de la surprise, qu'une tragédie arrache des larmes. Et puis, le grand mot d'ordre, c'est vraiment celui de plaire. Il faut qu'une pièce plaise, encore une fois, quelle que soit la manière dont elle y arrive.
Et ce bon chemin que vous évoquez, Lise Michel, est-ce qu'il n'est pas aussi de l'ordre du naturel ? On a le sentiment, quand on lit les recensions de l'époque, qu'une pièce est jugée bonne quand sur scène, on se rapproche d'un effet naturel, comme si la vie était sur scène.
Oui, c'est vrai, ça contribue tout à fait à cette esthétique du plaire, du plaisir. Alors là où Molière aussi joue un rôle, c'est dans une sorte de révolution sur la manière de jouer, puisque la troupe de Molière était connue, en tout cas dans son jeu comique, pour avoir introduit beaucoup plus de naturel que les troupes concurrentes. Donc effectivement, aussi bien sur le plan du jeu que de la manière de représenter les comportements, il y a effectivement cette question de naturel. Alors qu'il faut quand même recontextualiser, ce n'est pas un naturel qui correspondrait vraiment à une sorte d'esthétique vraiment réaliste, parce que Molière travaille beaucoup sur la parodie, sur la caricature, mais il y a effectivement chez lui cette notion de naturel qui est très importante.
D'abord, on se lève. Le souffle ne doit pas venir de là, mais de là. Allez, dis-moi un verre d'Andromaque, n'importe lequel, allez.
Je vous l'avais prédit qu'en dépit de la Grèce, de votre sort encore, vous seriez la maîtresse.
Encore ?
Je vous l'avais prédit qu'en dépit de la graisse, de votre sort encore, vous seriez la maîtresse.
Mais souffre-le, sinon c'est ton cul que je fais rougir. Moi, du sais-je m'arracher la peau des mains. Allez!
Je vous l'avais prédit qu'en dépit de la graisse, de votre sort encore, vous seriez la maîtresse.
Hélas, de quel effet tes discours sont suivis. Il ne me restait plus qu'à condamner mon fils.
Madame, votre épouse est d'être assez fidèle. Trop de vertu pourrait vous rendre criminelle. Lui-même, il porterait votre âme à la douceur.
Tu vois, c'est simple de jouer. Chaque soir, il suffit de mourir sur scène.
Dans les théâtres parisiens du XVIIe siècle, Lise Michel, vous dites que le regard des spectateurs est plus orienté vers la salle que vers la scène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et avec quelles conséquences ?
Les témoignages de l'époque sont très frappants sur le fait que le regard des spectateurs se porte autant, voire plus, sur la salle que sur la scène. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas tant la qualité d'une pièce que la qualité de la soirée en général, avec qui inclut la question de savoir qui était dans la salle, quel est le nombre de personnes, mais aussi quelle est la qualité des personnes qui étaient dans la salle. Et puis, ce qui est très frappant aussi, c'est que les spectateurs mesurent aussi beaucoup la qualité de la pièce à la manière dont on va parler de cette pièce après. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un système de relais d'écho. Et plus la pièce porte loin et plus elle porte longtemps son écho, plus on considérera que c'est une pièce de qualité. C'est vraiment un système de chaîne, en fait, le fonctionnement de la critique théâtrale à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a des témoignages de spectateurs qui rapportent ce qu'ont fait les spectateurs dans la salle, la manière dont ils ont reçu cette pièce, la manière dont certains spectateurs se sont comportés pendant la représentation. Et puis, ce témoignage-là va être rapporté, va être à nouveau reformulé, y compris sur des supports parfois très surprenants, dans les préfaces de romans, dans des correspondances, dans des récits d'ambassadeurs. Donc, ça peut aller très loin, comme ça, ce phénomène de chaîne de critique, en quelque sorte.
Et ça peut induire un effet buzz, pour être anachronique. C'est-à-dire qu'on imagine bien que quand il s'est passé quelque chose dans un théâtre, ça se répète et ça se répand dans Paris.
Tout à fait. Quel que soit le type d'événement qui a lieu dans le théâtre, effectivement, ça se répand, on en parle. Voilà. Alors après, ça peut aussi être des éléments qui se passent sur la scène. Par exemple, en 1671, Armand de Béjart fait une chute, une mauvaise chute de la nacelle qu'il apporte. Elle est en train de jouer Psyché, puis elle tombe de sa nacelle. Donc là, ça fait l'événement dans Paris, de savoir comment la salle a réagi, et puis qui a réagi, et puis ensuite on prend des nouvelles de Armand de Béjart, etc. Et finalement, la représentation de Psyché, cette représentation-là, en tout cas de Psyché, tourne autour de cette question-là.
Et puis apparaît une seconde question à propos du public. Qu'est-ce que le spectateur vient chercher quand il entre dans le théâtre de Molière à Paris ?
Le public vient chercher de quoi se moquer de son voisin de salle. Et chacun, en se voyant, dit « Oh mon Dieu, comme ça ressemble aux autres !» Il y a un peu ce côté-là. Et puis, chez les plus profonds des spectateurs, il y a peut-être l'idée d'une certaine distance prise. Je dirais que ces gens, qui sont des gens en apparence superficiels, ont aussi au fond d'eux-mêmes cette profondeur de se dire que tout ça est un jeu. Que la vie est peut-être un songe. C'est l'idée que il ne faut pas trop compter sur le sérieux de l'existence. Il y a quelque chose de désespéré et même d'effrayant à voir ce démontage qu'opère Molière et qu'il nous aide à opérer en nous guérissant du pessimisme que nous pourrions en tirer par le rire qui est une sorte de panacée. Et je dirais qu'il assigne là au rire une fonction que de nos jours, la psychanalyse ou simplement l'observation quotidienne ont su représenter. Vous savez qu'on dit que le rire est le propre de l'homme, mais je dirais que le rire est le propre aussi de la culture. Et que le point de vue du rire, c'est peut-être une façon d'éviter d'être dangereux ou d'être dupe de soi-même.
Et alors, est-ce que ce public parisien ne vient pas au théâtre chez Molière aussi pour voir un rire qui se hisse au niveau du tragique ?
Alors, il y a une profondeur du rire qui ne se prend pas au sérieux. C'est la suprême élégance du spectateur qu'attend Molière. C'est-à-dire que lorsque le rire se prend au sérieux, ça peut donner un personnage comme le misanthrope, Alceste, qui, outre une qualité mais évidente, la vérité, la sincérité, la droiture, et qui, en l'outrant, la ridiculise. Dans les vers de Cléante, disant que les hommes sont la plupart étrangement faits, il y a cette idée que les meilleures choses sont outrées par nos défauts. Et ce que Molière, donc, essaie d'établir, me semble-t-il, c'est cette ligne juste où, tout en voyant l'excès, nous réussissons à nous maintenir dans la mesure. C'est cette mesure parfaite, vous voyez, qui remonte à Aristote, lequel disait « il n'y a pas d'un côté les qualités, de l'autre les défauts ». Il y a deux excès et la mesure. Prenez le courage, vous pouvez être téméraire et vous pouvez être pusillanime. Si vous avez trop peur, vous êtes un soldat vraiment sans efficacité. Mais si vous êtes téméraire, vous allez vous faire tuer le premier jour de la guerre, c'est pas utile non plus. Le courage, c'est l'intermédiaire entre les deux. Mais je dirais qu'il y a un peu de cela, et dans une pièce comme Le Misanthrope, où un homme excessif en matière de vertu aime une jeune femme qui est une écervelée et qui ment autant qu'elle respire, il y a à l'intermédiaire un personnage qui dit qu'il voit les hommes comme ils sont, qui sait que ce sont des animaux, en gros, à peine améliorés, mais qu'il les prend comme ils sont et qu'il s'efforce de trouver le moyen de les supporter. Et vous voyez, je crois qu'il y a là deux défauts extrêmes, le trop de sincérité, de vérité, d'exigence, le héros, l'ancien héros tragique, et puis de l'autre, la superficialité d'un monde qui, il faut dire, était quand même un peu un monde superficiel, élégant et mondain, et puis entre les deux, le point de vue du sage. Il y a, chez Molière, un sage qui rit.
Premier succès, premiers ennemis. Et si vous voulez, tel sera le fil conducteur de notre entretien d'aujourd'hui. C'est-à-dire du succès inattendu des précieuses ridicules.
Novembre 1659.
Au triomphe, à la consécration que fut l'école des femmes.
En à peine 3 ans, Molière et sa troupe triomphent à Paris. Un succès fulgurant qui déclenche inimitié ses jalousies. La guerre comique est déclarée.
Molière vient de produire une pièce qui a connu un succès phénoménal, hein, qui est l'École des femmes, qui est une pièce qui a un degré de provocation très élevé, ne serait-ce qu'en donnant une forme très très noble d'une pièce en 5 actes et en vers à une histoire assez graveleuse avec toutes sortes de plaisanteries à caractère sexuel. Donc Molière est vraiment un chien dans un jeu de quilles, hein, qui arrive avec un degré de provocation très élevé. Bien évidemment, ça fait sensation, hein, tout le monde ne parle que de cela à ce moment-là à Paris. Et Molière va se servir de cette occasion-là pour ajouter un degré de provocation supplémentaire en donnant une petite pièce qui s'appelle « La critique de l'école des femmes », qui est une pièce qui parle de sa pièce elle-même et qui représente un public en train de la commenter. Et cette espèce d'action offensive, elle va déclencher ensuite la riposte des autres troupes par le biais d'une série de pièces de ce type-là. Donc, pendant quelques mois, les théâtres vont se renvoyer la balle, en quelque sorte, de diverses pièces qui parlent toutes de leur activité, qui se renvoient les unes aux autres, dans un phénomène général qui leur est profitable, finalement, hein, comme toujours. Ça fait vendre, ça attire le public, hein, la recette. C'est une guerre comique, si on l'a appelée la guerre comique, une pièce a même été dénommée ainsi, mais c'est une guerre comique qui arrange tout le monde en quelque sorte. C'est une espèce de pugilat sous les yeux du public qui se réjouit de voir les comédiens échanger des coups en quelque sorte de manière relativement bienveillante de toute façon.
C'est un coup de marketing assez génial quand même.
Ah, absolument. Alors, une des grandes qualités qu'il faut reconnaître à Molière, c'est justement un sens du marketing qui amène un phénomène nouveau dans le théâtre de cette époque-là et qui resteront installés, bien sûr, après sa disparition lui-même.
Autour de Molière, les intrigues naissent très vite. Ses ennemis les plus immédiats sont les beaux esprits qui flairent sur lui des odeurs paysannes.
Molière n'est qu'un farceur. Ici, madame, c'est la tragédie que nous jouons.
Et les comédiens du Marais et ceux de l'Hôtel de Bourgogne que sa réussite inquiète.
Inquiétude. Certes, mais quel fut l'autre ressort de cette guerre comique ?
Alors le ressort, il est d'abord commercial, c'est que la troupe de Molière avait beaucoup de succès et que l'Hôtel de Bourgogne ne savait pas comment s'en tirer.
Devons-nous faire populaire ?
Il est également esthétique, C'est-à-dire qu'on trouvait que Molière introduisait une nouvelle façon de jouer. L'acteur Molière, c'est un mélange de Chaplin et de Funès. Vous voyez, c'est un corps gracile, des yeux qui roulent. Il paraît que dans un rôle qu'il avait tenu dans Le Cocu imaginaire, il avait l'art de démonter son visage en une seule scène et de faire 10 grimaces différentes. Une large bouche, des yeux qui roulaient, une sorte de hoquet et des scènes qu'il s'écrivait pour lui-même où un personnage très en colère est mis en contradiction par des gens qui ne le prennent pas au sérieux ou qui lui créent des obstacles. C'est assez de funeste, hein, cette histoire-là. Alors, cette nouvelle manière de jouer, évidemment, ce n'était pas du tout celle du théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, ou bien on était farceurs comme Gauthier Garguy, Turlupin, Jodelet, enfin les personnages du théâtre français, ou bien on était tragique et dans ce cas-là on jouait, vous savez, un peu comme un chanteur de théâtre. Enfin, on disait que Montfleury avait un ventre tellement gros qu'il le tenait par un cercle de tonneaux. Bon, c'est une exagération, mais il y avait chez les acteurs tragiques à cette époque-là un peu le souffle des chanteurs wagnériens. Vous voyez, c'est une puissance. Molière, non, il prétendait jouer naturel. Bon, sans doute trouverions-nous ce naturel pas naturel du tout. Mais enfin, par rapport à ce caractère empesé, si vous voulez, il y avait quelque chose de plus spontané, au point que dans cette querelle de l'École des femmes, où il va mettre sur la scène son propre public, en train de disserter sur « aimons-nous ou n'aimons-nous pas l'École des femmes et pourquoi ?» Et avec un tour de génie qui consiste à distribuer les rôles à des personnages qu'il a lui-même brocardés dans ses comédies précédentes. On y trouve une précieuse ridicule qui, évidemment, est complètement effarouchée par cette pièce obscène. On y trouve un pédant, comme il y en a eu dans la comédie des fâcheux, et le savant, c'est toujours quelqu'un qui fait rire. Et puis, on y trouve un marquis évaporé qui n'a même pas regardé la pièce, mais qui, de toute façon, pense qu'elle est mauvaise parce qu'on lui a dit qu'il fallait le penser. Puis en face, il y a les honnêtes gens qu'on trouvera dans le théâtre de Molière. Un honnête homme raisonnable, qui raisonne et qui réfléchit. Une dame élégante, qui reçoit et qui dit avec humour ce qu'elle en pense, et puis une railleuse qui se moque un peu de tout le monde. Et c'est donc comme si les personnages de Molière s'emparaient de sa pièce pour la réfléchir. Nous avons là une mise en scène du théâtre par lui-même, une réflexion mise en scène, qui fait qu'au lieu d'une polémique, comme on aurait pu l'attendre, comme ce fut le cas pour la querelle du Cid, Molière a résolu le débat, le conflit qui naissait depuis la scène. Alors évidemment, les adversaires, ils vont monter en scène des réponses. Et on va voir sur l'Hôtel de Bourgogne une pièce, alors là, complètement étrange, qui s'appellera Le portrait du peintre, et où les personnages ridicules de Molière se mettent à le défendre, et les personnages raisonnables se mettent à l'attaquer. Ce qui est quand même assez difficile à tenir, et qui prouve que Molière avait coincé ses adversaires. Et au moment où on l'attend dans une seconde critique de l'École des femmes, puisque le roi lui a commandé de répliquer à ses répliques, il décale encore l'affaire. C'est une stratégie de prouesse. C'est une stratégie de changement de pied. Et il monte sur sa propre scène, ses propres comédiens, et lui-même dans son rôle de Molière, répétant la réponse que l'on attend du roi, et qui d'ailleurs ne sera pas jouée, c'est un échec.
Veuillez écouter maintenant l'impromptu de Versailles de Molière.
Hola ! Oh ! Monsieur de Brécourt !
Quoi ?
Monsieur de Lagrange.
Yes.
Monsieur Ducroisy.
Fait-il.
Mademoiselle Duparc. Yeah. Mademoiselle Péjard.
Fait-il.
Mademoiselle Debrie.
Fait-il.
Mademoiselle Ducroisy.
Qu'est-ce que
c'est? Mademoiselle Hervé.
On y va.
Oh, je crois que je deviendrai fou avec tous ces gens-ci. Et tête bleue, messieurs. Me voulez-vous faire enrager aujourd'hui?
Que voulez-vous qu'on fasse? Nous ne savons pas nos rôles. Et c'est nous faire enrager vous-même que de nous obliger à jouer de la sorte.
Ah, les étranges animaux à conduire que des comédiens.
Dans cette comédie pirandellienne, il reprend un modèle d'écriture littéraire que l'on trouve assez fréquemment. C'est la pièce qui vit du récit de l'échec à s'écrire. Vous avez ça dans Les Faux-monnayeurs de Gide, où un écrivain n'arrive pas à écrire Les Faux-monnayeurs. Vous avez ça dans 8 et demi de Fellini, où un réalisateur n'arrive pas à faire un film. Et d'ailleurs, si Fellini a appelé ce film 8 et demi, c'est parce que c'est son 9e film. Mais comme c'est un film qui raconte l'échec de son film, ce n'est que 8 et demi. Eh bien, cet effet comme cela de théâtre dans le théâtre, de répétition qui nous amène dans les coulisses, c'est passionnant. C'est passionnant et on a l'impression que finalement là, le théâtre est capable de se réfléchir lui-même, de penser lui-même en termes théâtraux sa propre existence et la réalité du monde.
De cette guerre des théâtres, Molière sortira vainqueur. Une victoire lui offrant à la fois la célébrité et la fortune.
Ainsi, mon ami, vous allez quitter vos demeures de passage et vous installer dans une vraie maison.
Ah oui, je suis trop heureux de pouvoir offrir à Armand un beau logis, avec des meubles et des objets de qualité comme je les ai toujours appréciés, et que mes gains de comédien et d'auteur me permettent maintenant d'acquérir.
On s'aperçoit de la magnificence de son train de vie lorsqu'on peut consulter son inventaire après décès, donc l'inventaire des possessions matérielles de Molière. Ce document nous est parvenu, hein, où on voit un défilé d'objets de luxe qui est absolument impressionnant. Molière est quelqu'un qui très vite est devenu riche et qui a su en profiter par la consommation matérielle.
Là, cet étage, le premier, sera celui d'Armande. J'y placerai 12 fauteuils en noyer à mufle de lion. Ah, je placerai aussi, dans cette pièce, 2 clavecins pour ma musicienne Armande et un petit cabinet de chine pour qu'elle y range ses parures et bijoux. Mais passons à la chambre voisine. Les travaux y sont déjà bien avancés car là doit coucher ma femme.
Le succès plaide évidemment en faveur de Molière. Il a évidemment rempli les salles. Mais est-ce qu'on sait comment les spectateurs réagissaient aux pièces de Molière? Est-ce qu'on riait beaucoup aux pièces de Molière, Patrick Dandré?
Ah mon Dieu, si j'avais été là. Molière dit effectivement lui-même, par exemple dans la critique de l'École des femmes, que le public se tord de rire. Bon, alors il faut dire aussi qu'il jouait lui-même d'une façon puissamment comique. Il était drôle, il était naturellement drôle, et je pense que lorsqu'il apparaissait en scène, il y avait un bonheur. On raconte, c'est une hypothèse, mais ça paraît assez crédible, que lorsque on a démoli le théâtre du Petit Bourbon, qui était assez petit, qui était dans la cour du Louvre pour construire la cour carrée, on l'a transposé dans la salle du Palais Royal. Alors, une salle immense qui avait été créée pour faire des spectacles avec du ballet, avec de la musique, enfin, des machines. Et il aurait reconstruit les loges et la scène de son petit théâtre à l'intérieur de la grande, parce que ça lui permettait de jouer très près des feux de la rampe, des bougies et des lustres, et d'avoir le spectateur tout près de lui, parce que sa mimique, la mimique notamment de son visage, était quelque chose que l'on allait voir. Vous voyez, il y a donc un prestige du comédien, hein, et on l'attend. Et c'est pourquoi dans certaines de ses pièces, il se donne des rôles tuants. D'ailleurs, il en mourra. Des rôles tuants parce qu'il est tout le temps là. Un an avant sa mort, dans le rôle de Scapin, qui est un valet qui caracole, il est presque constamment en scène et il s'agite. Et son corps était parlant, ça c'est la stratégie italienne, parce que les Italiens jouaient sous le masque, donc ils faisaient parler leur corps. Et en même temps, son visage était parlant parce que c'est un acteur à la française, c'est-à-dire un acteur de texte. Et le rapport entre les deux, le rapport entre le corps qui parle et le texte qui sort de la bouche, ça, je crois que c'est vraiment l'essence du théâtre. Je dirais que Molière est le nom du rire qui pense et qui donne à penser.
En conclusion de ce 4e épisode, on peut dire qu'avec l'invention de ce filon comique, Molière s'est offert une relation très particulière avec son public, fondée sur une grande connivence d'esprit, ce qui a profondément modifié l'équilibre de la vie théâtrale parisienne à cette époque-là. À partir de 1662, tout ce qui ne ressemblera pas à ce que Molière apporte de nouveau va devenir ringard. Et la comédie va complètement se modifier. Tout le monde va chercher à imiter Molière. Il a donc ouvert la voie à une évolution radicale du genre comique. Un genre inédit qui a su séduire un monde étrange et fascinant, celui des mondains. C'est l'horizon du prochain épisode.
Permettez, madame, que je dépose à vos pieds mes respectueux hommages.
Je les accepterai volontiers, monsieur, quand je saurai qui me les envoie.
Jean-Baptiste Poquelin du Pont-Neuf, marquis de Mascarille.
Pour vous servir.
Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Toute notre équipe vous remercie pour votre attention. Bon après-midi.
Molière, Le Chien et le Loup. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Assistance éditoriale, Estelle Gap. Documentation sonore, Clary Monac. Mixage, Julien Chabassu. Prochain épisode, Au pays des mondains. Molière, Le Chien et le Loup est un podcast original de France Inter avec la Comédie Française.